4. À propos des religions. La relation de chaque homme avec Dieu est très particulière. Ne sommes-nous pas tous différents par notre manière d'être, par nos goûts, par notre expérience? La relation et le dialogue que nous entretenons avec Dieu sont singuliers, et on les retrouve dans des traditions religieuses de tout type. Pourquoi les religions sont-elles différentes? Se demandent les gens. Il me semble qu'il faut répondre « parce que les expériences individuelles sont différentes, et quand ces expériences se regroupent autour d'un dénominateur commun, une religion se constitue. » Dans le cas du judaïsme, s'agissant d'une religion millénaire, il faut l'interpréter en termes antiques. À Rome, on faisait la distinction entre religion, nation et peuple. Dans le judaïsme, dont l'origine remonte à 1 millier d'années avant Rome, les trois notions sont indissolubles. Appartenir au peuple juif, c'est accepter sa religion, comme l'a dit Ruth à Naomi. « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth 1, 16. Par ailleurs, il existe dans le judaïsme la notion de peuple élu, qui prête souvent à confusion. Une rencontre s'est produite entre Abraham et Dieu. Un pacte en est issu, et Abraham a engagé sa semence future à le respecter. Ce pacte dit, en essence, que le peuple observera une éthique établie sur les préceptes qui lui seraient révélés par Dieu, afin de témoigner de sa présence dans la réalité humaine. Comme l'exprime Amos, « Je vous ai distingué, vous seul, parmi tous les clans de la terre, c'est pourquoi je vous ferai rendre des comptes pour toutes vos fautes. » Amos 3:2. Au chapitre 9, verset 7, le même prophète parle au nom de Dieu. « Vous, enfants d'Israël, valez autant pour moi que les Éthiopiens, déclare Dieu. J'ai élevé, fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël, comme les Philistins de Caphtor, les Araméens de Kir. Nous sommes le peuple élu par Dieu pour quelque chose de particulier. Ce choix implique que chaque génération doit renouveler le pacte avec lui. Malheureusement, ceux qui nous haïssent nous accusent de nous considérer comme une race supérieure. Paraphrasant la définition qu'ils faisaient de leur propre peuple, les nazis ont considéré que les juifs étaient une race inférieure. Le christianisme a étendu la notion de peuple d'Israël à tous ceux qui embrassent sa foi.
Dieu se fait sentir dans le cœur de chaque individu. Il respecte aussi la culture des peuples. Chaque peuple capte cette vision de Dieu. Il la traduit en accord avec sa culture, puis il l'élabore, la purifie, lui donne un système. Certaines cultures sont plus primitives dans leurs explicitations. Mais Dieu s'ouvre à tous les peuples. Il les interpelle tous, il les provoque pour qu'ils se mettent à sa recherche et le découvrent à travers la création. Dans notre cas, celui du judaïsme et du christianisme, il existe une révélation personnelle. Dieu vient lui-même à notre rencontre. Il se révèle à nous. Il nous montre le chemin et nous accompagne. Il nous dit son nom. Il nous guide par l'intermédiaire des prophètes. Nous, chrétiens, croyons que, pour finir, il se manifeste et se livre à nous en Jésus-Christ. Par ailleurs, tout au long de l'histoire, certaines circonstances ont entraîné des schismes et la constitution de communautés diverses qui sont différentes façons de vivre le christianisme, comme la réforme. Nous avons vécu une guerre de 30 ans à l'issue de laquelle différentes confessions se sont forgées. C'est très dur et honteux, mais c'est ainsi. Dieu est patient. Il attend. Dieu ne tue pas. L'homme s'arroge le droit de le faire en son nom. Tuer au nom de Dieu est un blasphème.
Comment se peut-il que des gens en maudissent d'autres parce qu'ils pratiquent une forme de religion différente? Quand celle-ci est sincère ou qu'elle s'efforce de rapprocher les hommes de Dieu? Ceux qui s'érigent en détenteurs de la vérité absolue, qui jugent avec froideur les actes d'autrui, pratiquent généralement, souvent, un credo ignominieusement païen. Le paganisme est un thème central de la littérature biblique. Dans l'Israël antique, à l'époque où l'on pratiquait des sacrifices, le jour du grand pardon, Lévitique 16, il fallait prendre deux boucs, selon la tradition, Mishnah Yoma 6.1. Il fallait que ces boucs se ressemblent le plus possible. L'un devait être sacrifié à Dieu, l'autre était sacrifié quelque part dans le désert, où il emportait avec lui tous les péchés du peuple. Beaucoup se sont alors demandé, « Dieu a-t-il vraiment besoin de sacrifices ?» Pour Maïmonide, Guide des égarés, troisième partie, chapitre 32, l'homme sentait qu'il devait le faire en guise de remerciement, que Dieu lui avait concédé cette possibilité de rapprochement avec lui, mais avec certaines restrictions. On ne faisait pas d'offrande humaine, par exemple. S'il acceptait que le sentiment humain s'exprime à travers les offrandes, Dieu les réglementait. Pour revenir au sujet, quand j'ai analysé cet aspect du rituel du jour du grand pardon, je me suis demandé pourquoi il fallait que les deux boucs se ressemblent. Quelle réponse ai-je trouvée? Que, parfois, sous le même emballage, on peut empaqueter des choses différentes. On peut parler au nom de Dieu. On peut mettre des habits qui évoquent la pureté ou l'élévation spirituelle et distiller sous ces mêmes habits les pires choses qui soient. Entre ce qui est païen et ce qui est pur, la ligne est parfois très ténue. C'est en recourant à des techniques que certains tiennent pour des rituels religieux qu'on a allumé au XXe siècle les plus funestes passions parmi les masses. C'est alors qu'on a évincé Dieu.
Tuer au nom de Dieu, c'est idéologiser l'expérience religieuse. Quand cela se produit, la politicaillerie surgit, et le pouvoir devient arrogant au nom de Dieu. Ceux qui le font sont des individus qui s'auto-érigent en Dieu. En plein XXe siècle, ils ont rasé des villages entiers parce qu'ils se prenaient pour des dieux. Les Turcs l'ont fait avec les Arméniens, le communisme stalinien avec les Ukrainiens, le nazisme avec les Juifs. Ils ont usé d'un discours aux attributs divins pour tuer des hommes. En vérité, c'est une façon sophistiquée de tuer par excès d'estime de soi. Le deuxième commandement ordonne d'aimer son prochain comme soi-même. Aucun croyant ne peut limiter la foi à sa personne, son clan, sa famille, sa ville. Un croyant est avant tout un individu qui va à la rencontre des autres croyants, ou de ceux qui ne le sont pas, pour leur tendre la main. La Bible, sur ce sujet, est éloquente. Le prophète Amos est un aiguillon qui ne cesse d'interroger ceux qui commettent des injustices à l'encontre de ses frères, ceux qui ne proposent pas leur aide, ceux qui n'apportent pas la présence de Dieu aux pauvres, à l'invalide. On trouve aussi dans la loi le glanage. De quoi s'agit-il? Le livre de Ruth en fait la description. Il dit qu'il ne faut pas revenir sur la terre moissonnée, parce qu'il y a toujours des restes qui doivent aller à la veuve et l'orphelin.
La conception biblique nous apprend que nous descendons tous d'un homme primitif, c'est-à-dire que nous avons tous des liens de fraternité. Nul ne devrait jamais devenir indifférent à l'homme. La Bible tout entière n'est peut-être au fond qu'une seule clameur. Ne sois pas indifférent aux choses de l'esprit, à Dieu et à ton prochain. Quelle est sinon la fonction sociale de la religion?
Je reviens aux deux premiers commandements. Le premier dit « Aime ton Dieu de tout ton cœur et ton âme ». Le deuxième « Aime ton prochain comme toi-même ». Jésus dit que ces deux commandements contiennent à eux seuls toute la loi. C'est pourquoi l'idée libérale consistant à cantonner le religieux au temple et à l'éliminer au dehors ne fonctionne pas. Certains actes s'accomplissent traditionnellement au temple, comme l'adoration de Dieu, la louange, le culte. Mais d'autres se font dehors, avec toute la dimension sociale de la religion. Cela commence par la rencontre communautaire avec Dieu, qui est proche, qui marche avec son peuple. Et ça se développe au fil de la vie avec des règles éthiques, religieuses, de fraternité, etc. Il y a là quelque chose qui régule la façon de se comporter avec les autres. La justice. Je crois que celui qui adore Dieu possède, dans cette expérience, un devoir de justice envers ses frères. C'est une justice fondamentale.